Archipel, le podcast de l'écologie politique qui explore le territoire girondin.
Bonjour, Laure Curval, vice-présidente à la transition écologique et au patrimoine au département de la Gironde. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier podcast d'Archipel autour de l'écologie politique et de ce que nous faisons, nous élus au département. Et pour cela, je suis accompagnée de Sabrina Amar-Baïta, des compagnons bâtisseurs. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Et d'Aurélien Calmels de l'association CREAC. Et ils vont avoir le plaisir aussi de se présenter et de vous expliquer pourquoi ils sont là aujourd'hui. Et pour ce premier numéro, nos bonnes ondes écologiques vont être très sociales parce qu'on va être sur le sujet de la lutte contre la précarité énergétique. Et comme élue, je suis très fière que depuis 2017, nous puissions faire un travail pour accompagner les personnes et les ménages qui sont victimes de cette précarité énergétique. Notre dispositif s'appelle le Slim 33. C'est pas très parlant comme nom, mais vous allez voir, c'est très concret. Ça veut vraiment dire des visites à domicile, ça veut dire des travaux, et ça veut dire aussi beaucoup de travail très humain. Mais c'est Sabrina et Aurélien qui vont pouvoir l'expliquer mieux que moi, parce que c'est eux qui font sur le terrain. Alors, quelques mots quand même pour savoir de quoi on parle quand on dit la précarité énergétique. Je vais vous renvoyer pour avoir une définition très précise à l'Observatoire national de la précarité énergétique, où on va vous parler de taux d'effort énergétique, d'indicateurs bas revenus, etc. On va faire simple, on est dans la précarité énergétique quand on n'arrive plus à payer ses factures d'énergie, quand on a malheureusement des revenus trop faibles par rapport à ses dépenses d'énergie. Et il y a un autre critère qui est très important, c'est aussi quand on souffre d'inconfort dans son logement. Donc concrètement, on paie très cher, mais on n'arrive pas à se chauffer l'hiver. Et l'été, on a beaucoup trop chaud, on est dans une bouilloire thermique. Voilà un petit peu ce qui caractérise ce Slim 33 que le département déploie sur toute la Gironde, sauf la métropole de Bordeaux. Ça représente un effort budgétaire d'environ 1 million d'euros pour l'année 2025. On fait ça depuis 2017 et on a accompagné déjà 5000 personnes pour les sortir de la précarité énergétique. Alors, on va entrer dans le concret et on va prendre le Slim 33 par le démarrage. C'est-à-dire que le démarrage, il y a une alerte qui est envoyée vers nos associations partenaires. Il ne faudra pas que je les cite toutes, parce qu'aujourd'hui, il y en a deux avec nous, mais elles sont beaucoup plus nombreuses à nous accompagner. Donc, Aurélien, vous allez pouvoir nous expliquer pour le CREAC comment se déroule le repérage, la visite à domicile et voilà, très concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez une alerte qui est donnée par notre réseau de travailleurs sociaux.
Donc pour vous situer, je fais partie du CREAC. Donc on est un des trois opérateurs qui s'occupe du SLIM sur une partie de la Gironde. Pour vous situer, on a une asso sur Bègles d'environ une trentaine de collaborateurs. Donc on existe depuis plus de 25 ans. On accompagne du coup tout un type de public vers la transition énergétique, pardon. Et on a développé différentes actions, notamment du coup des conseils, de la formation et la lutte contre la précarité énergétique avec notamment donc, le dispositif SLIM. Ce dispositif, du coup, on est en lien avec les MDS et CCS du coup, des différentes communes, donc Maisons de solidarité, sur différents territoires. L'idée, c'est que des personnes prennent rendez-vous, donc soit en accueil, soit en permanence, auprès du coup d'assistantes sociales pour évoquer différents problèmes dans leur logement. Donc ça peut être humidité, moisissure, facture élevée, etc. De là, les travailleurs sociaux orientent, donc nous envoient une alerte suivant le territoire à nos structures. Et de là découle du coup une prise de contact où on va évoquer les différents problèmes par téléphone. Suite à ça, on va bloquer une date de visite. Donc pour situer, la visite fait à peu près 1h30. On va faire le tour de tout ce qui va être bâti, Équipement, usage, donc bâtisse et sol, mur, comble, fenêtre, équipement, chauffage, ventilation, eau chaude, et usage, comment ils chauffent, comment ils aèrent, les contrats d'énergie, etc. Et voilà. Donc, cette visite-là permet de faire un diagnostic qu'on appelle socio-technique, avec une partie du coût technique, une partie du coût social. Et suite à ça, va se poursuivre un accompagnement sur une durée d'un an pour mettre en place différentes actions avec l'aide, du coup, l'appui de différents partenaires. Qui peuvent être notamment voilà, les compagnons bâtisseurs voilà, qui seront présentés juste après, ou la DIL, ou le lien, enfin voilà, tout un type du coup de prestations qui peuvent être faites.
Et la Fondation pour le logement. Et Aurélien, on peut préciser à 90% les personnes qui sont suivies dans le cadre du SLIM sont des locataires. C'est pour ça que ça fait entrer de jeu une situation un peu complexe. La DIL peut apporter des conseils juridiques. Et il y a aussi la Fondation pour le logement qui peut aider à changer des appareils électroménagers, concrètement le réfrigérateur, le congélateur qui fonctionne trop. Et est-ce que vous pouvez nous dire pour vous quel est un peu le profil type de la personne à qui vous faites une visite du SLIM? Quel type de logement pour vous est vraiment le profil type?
Ce qu'on retrouve du coup en majorité, donc, c'est comme vous l'avez dit, des locataires de parcs privés qui se chauffent à l'électricité, avec sur l'ensemble des territoires, soit des familles monoparentales ou des personnes seules, plutôt familles monoparentales qu'on retrouve du coup. Sur les logements, ça peut être appartement ou maison suivant le territoire, mais le problème qui se dégage en priorité, ça va être l'humidité. Donc l'humidité et la moisissure, de par des problèmes de ventilation, ou soit des systèmes de ventilation insuffisants ou qui n'existent pas tout simplement. Donc ça va être un des principaux problèmes et qui va engendrer également du coup des consommations d'énergie élevées. Voilà, plus un air humide, plus ça peut être difficile à chauffer, etc. Mais un des principaux points qu'on voit, c'est l'humidité, l'humidité moisissure.
Et donc, on peut aller plus loin dans les travaux et dans l'accompagnement, puisque l'idée est que le SLIM ne soit pas juste, bien entendu, à aider à payer les factures, à baisser les factures. C'est vraiment aussi se sentir mieux dans son logement. Et c'est un peu la spécialité des compagnons bâtisseurs.
Et c'est le moment où je prends la parole, c'est ça? Merci de nous donner la parole. Donc, compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, donc Sabrina Amarbaïda. Moi, je suis coordinatrice de projet pour les compagnons bâtisseurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pilote quelques projets autour de l'habitat pour les compagnons bâtisseurs. D'abord, un mot peut-être sur les compagnons bâtisseurs. J'en parlais avec Aurélien tout à l'heure. On nous confond souvent avec d'autres compagnons. Alors, notre asso, c'est un mouvement d'éducation populaire qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est important de comprendre pour voir un peu comment on fonctionne. Et notre objet est un peu plus large que, par exemple, le CREAC, qui a plus vocation à intervenir dans le cadre de la précarité énergétique. Et je ne dis pas de bêtises, Aurélien, c'est ça? Donc, mouvement d'éducation populaire, l'objectif au départ, c'était de se dire, on se rassemble et on rassemble notamment la jeunesse pour intervenir, pour agir ensemble sur des situations de mal-logement. C'était reconstruire les maisons ensemble à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'était ça l'histoire des compagnons bâtisseurs. Et progressivement, c'est devenu une association toujours d'éducation populaire qui œuvre contre le mal-logement. L'action phare, en fait, qu'on va porter, c'est l'ARA, l'autoréhabilitation accompagnée. C'est l'idée, tout simplement, de pouvoir accompagner la personne à retrouver son pouvoir d'agir. C'est la mettre au centre de ses capacités, se rappeler qu'elle est capable de faire quelque chose pour elle-même. Concrètement, comment ça se passe? C'est réaliser un chantier avec une équipe des compagnons bâtisseurs. Donc, c'est un salarié des compagnons bâtisseurs qui est animateur technique, et là ça dit tout, puisqu'il va animer le lien social et à la fois assurer une prestation technique. Ça c'est l'action historique des compagnons bâtisseurs, donc venir chez les personnes, faire un chantier ensemble, solidaire, c'est comme ça qu'on va vers les personnes et qu'on les aide à retrouver cette confiance à travers l'amélioration de l'habitat. Parce qu'on sait bien que lorsqu'on améliore l'état de son logement, on répare un petit bout de soi. Et ça, on en est bien convaincu. Et je pense que c'est ce qui a convenu dans le dispositif SLIM. Et c'est pour ça que nous, on intervient dans le cadre de ce dispositif. Et juste après Aurélien et les partenaires qui ont la même mission que lui, puisqu'on intervient en bout de course lorsqu'on vient nous solliciter pour justement, à l'issue du... Enfin, quand le rapport de visite est rendu par les opérateurs de visite, c'est ça ? Toi, je crois me mettre loupé. Par les chargés de visite. Lorsque les chargés de visite émettent leur rapport, ils viennent frapper à notre porte. On reçoit un petit mail qui nous dit, là, il va falloir aller chez cette personne. Et on a identifié telle et telle problématique. Et on pense que vous pourriez refaire une fenêtre, remettre un joint, remettre en place une VMC. On parlait d'aération et de ventilation. Donc, soit les défaillantes, soit elles n'existent pas. Et là, on va l'installer. Et c'est là que réside notre intervention dans le cadre du dispositif SLIM. On va réaliser ce qu'on appelle un dépannage pédagogique. Dépannage pédagogique, c'est le premier niveau ou le premier type d'intervention, pardon. Je dis premier type parce qu'il y en a deux. La première intervention, elle dure plutôt une journée sur site, où on va réaliser des travaux. Et là, j'ai ma petite liste, que ce soit en termes d'électricité, plomberie, isolation, menuiserie, ventilation et couverture. Mais là, déjà, on bascule sur le deuxième type d'intervention parce que oui, ça peut durer un peu plus longtemps. Et dans ce cas-là, on va appeler ça plutôt chantier pédagogique ou chantier d'autoréhabilitation accompagné, même si c'est vrai que la dimension participative est un peu moindre dans ce type de situation parce que justement, on est un peu dans l'urgence d'intervenir et de réparer des petites choses pour que ça ait un grand impact. Et est-ce qu'on a fait le tour ? Donc, dépannage pédagogique, chantier pédagogique. Et ce qui était peut-être important à souligner, même sûr, c'était qu'on avait vraiment cette force de pouvoir avoir l'expertise en fait de nombreuses années. Donc, ça fait 20 ans et pas 25 comme vous. On est presque pas loin. Ça fait 20 ans qu'on œuvre en fait sur des dispositifs d'aller vers. Concrètement, ça veut dire qu'on a la compétence, enfin, l'animateur technique qui intervient, il a la compétence à la fois sociale et technique. Donc, il va s'adresser, il va savoir s'adresser à la personne pour à la fois l'accompagner sur le geste technique, lui expliquer le geste technique. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois avec Laure Curval. C'est de se dire que les règles, en fait, on les a, les petits tips de comment est-ce qu'on économise l'énergie dans son maison. On les sait tous, on a même des fois des manettes dans le frigo qui disent coupez l'eau quand vous brossez les dents, ne bouchez pas une VMC. Mais dans la réalité, en fait, et c'est là où on identifie bien la précarité énergétique, c'est qu'on est tout seul dans son logement. Et comme le disait Aurélien tout à l'heure, c'est vrai qu'on est face à des personnes qui sont bien souvent isolées, précarisées, un peu fragilisées par la vie. Et c'est compliqué des fois d'apprendre, de se dépatouiller de toutes ces règles et toutes ces injonctions. Et là, quand on a quelqu'un qui nous prend par la main, qui vient à la maison avec un bricobus et qui dit « Non, écoutez, là, effectivement, le petit tissu dans la VMC, c'est pas tip-top, mais on va vous expliquer pourquoi. » Et là, on prend les gens par la main et on fait le chantier.
Et pour vous, Sabrina, même question que tout à l'heure qu'à Aurélien, quel est un peu le portrait type des personnes ou des familles que vous avez accompagnées dans le cadre du SLIM ? Est-ce qu'il y a un cas qui revient, qui est un petit peu le portrait type ?
Je ne sais pas si on peut parler de portrait type. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui revient, c'est cette idée d'isolement. Et c'est pour ça qu'on axe sur l'aller vers. On sent bien que les personnes, elles sont éloignées et qu'il faut juste un pas, un petit soutien qui fait qu'on bascule de l'autre côté vers le dispositif de droit commun. Est-ce que je cite l'exemple d'un collègue qu'on a pu récupérer comme ça dans le dispositif SLIM ? Au travers d'une intervention, on a sûrement un de mes collègues, sûrement Aurélien, un partenaire qui nous envoie une situation. On va chez un monsieur qui était sans emploi depuis un petit moment. La maison, effectivement, était un peu en souffrance dans le bâti. On refait la VMC, je crois. On met des rideaux thermiques, on met des têtes thermostatiques. Et en discutant, en faisant le chantier, enfin, je dis on, mais c'est notre intervenant technique, Nikita, qui intervient, accompagné de volontaires engagés au titre du service civique ou du Corps européen de solidarité. Et dans la discussion, on se rend compte qu'effectivement, il a plein de compétences, ce monsieur. Il ne travaille pas depuis, je ne sais plus, 2-3 ans, mais il a tout ce qu'il faut pour. Et il a suffi d'un coup de pouce, d'une rencontre, d'une transmission d'un CV. Aujourd'hui, il est encadrant technique dans le pôle atelier chantier d'insertion chez nous.
Et il aide d'autres personnes à sortir de la précarité énergétique.
Exactement.
Alors, on peut peut-être passer à finalement une question qui va aider peut-être à résumer ce qu'est le SLIM, parce que je pense qu'on en a quand même détaillé un petit peu les étapes finalement. C'est pour vous, pourquoi le SLIM est vraiment un dispositif nécessaire pour arriver à sortir les personnes de la précarité énergétique ? Ça serait ma première question. Et puis, j'aimerais bien vous en poser une après qui serait qu'est-ce que vous avez comme meilleur souvenir ? On vient d'avoir un peu une success story. Vous avez réussi à sortir une personne de la précarité énergétique. Elle a retrouvé un emploi. Voilà, j'imagine qu'il reste, on va être positif. Il doit rester parfois des souvenirs qui vous donnent vraiment envie d'y retourner le lendemain. Donc, la première question, c'est est-ce que ça reste un dispositif nécessaire pour lutter contre la précarité énergétique ? Aurélien ?
Alors, moi, du coup, je ressens dans la deuxième étape plutôt de médiation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la visite, parce que des fois, ce qui peut arriver quand on croise du coup des locataires, c'est qu'on peut être la première ou une deuxième personne, si un expert est passé ou autre, constater les ordres. Mais ce qui va être important, c'est de, mais notamment les suites à donner, de faire en sorte que voilà, vous avez de la moisissure et de les traiter, de trouver des solutions. Et ça, c'est dans le cadre du coup du SLIM où on peut proposer une médiation auprès du bailleur lors d'une visite complémentaire avec un conciliateur ou autre. En faisant intervenir du coup nos partenaires comme les compagnons qui peuvent du coup potentiellement voilà le bailleur finance un appareil, les compagnons du coup le posent, voilà ça peut faire une partie à l'amiable. C'est vraiment cette valeur-là qui pour moi est importante et permet de débloquer des situations, notamment par rapport au chauffage, c'est un des voilà des postes principaux du coup en termes de consommation. C'est là où on va accentuer aussi nos travaux pour que les personnes puissent se chauffer du coup l'hiver. Donc voilà, moi je recense vraiment cet élément-là. En termes de médiation qui est importante. Après, il y a un volet aussi conseil lors de la visite où on va apprendre aux personnes comment utiliser la maison, comment chauffer, comment aérer et toute une vigilance aussi sur les tarifs, les contrats d'énergie, etc. Donc, on a tout ce volet-là. On fait pour situer, enfin, voilà, on fait un certain nombre de visites du coup l'année, mais chaque visite du coup est différente parce que voilà, chaque ménage du coup a ses propres caractéristiques.
Si je reviens sur la question, des fois on a l'impression de s'être perdu dans les questions et les réponses, mais effectivement, le SLIM aujourd'hui, et je ne vends pas du rêve, qu'est-ce qu'on ferait sans le SLIM plutôt? Parce que le SLIM aujourd'hui, c'est une des solutions rapidement déployables qui permet d'aller vers les personnes, et on l'a dit à plusieurs reprises, l'aller vers aujourd'hui, nous, dans notre expertise compagnons bâtisseurs, d'aller vers les personnes, de les remobiliser, ça nous semble capital, voire fondamental, pour essayer d'aller repérer les personnes, de les toucher au plus près et d'arriver à avoir un impact concret en termes de précarité énergétique essentiellement. Aujourd'hui, sans le SLIM, ce serait quand même plus d'une centaine de personnes chaque année qui ne bénéficieraient pas de toutes ces interventions que j'ai décrites tout à l'heure, dépannage pédagogique ou chantier pédagogique ou chantier d'autoréhabilitation accompagné. Et ce serait tout autant de personnes qui se précariseraient d'autant plus et pour lesquelles ce serait d'autant plus compliqué d'apporter d'autres solutions, d'autres énergies pour justement essayer de les faire sortir d'une situation bien plus complexe que ce qu'elle ne serait auparavant. C'est quoi la
question juste après? Alors, Aurélien, donc j'aurais aimé savoir, puisque vous faites, vous accompagnez le SLIM depuis déjà un petit moment, pour vous, quel serait le meilleur souvenir, la visite qui vous a le plus marqué, le plus ému?
Alors, j'en ai deux qui me viennent en tête. La première, c'était du coup sur un ménage où on a pu faire du coup un remplacement d'appareil de froid, donc typiquement un réfrigérateur, avec un autre équipement. Et la personne m'avait répondu que Dieu vous bénisse. Et il m'avait appelé. Et alors, pour nous, ça peut paraître anecdotique, voilà, de remplacer un frigo ou autre. Sauf que pour lui, du coup, en fait, on n'a pas conscience que ça, là, ça touche à sa consommation, à tout ce qu'il fait tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment top. Et ensuite, une autre situation, c'était dans le cadre d'une médiation. Voilà, je fais une visite du coup chez un ménage où il y avait du coup une problématique d'infiltration d'eau, donc qui était pour le coup visible, c'était plus que du goutte à goutte. Le ménage m'indique qu'il a essayé à plusieurs reprises de contacter du coup le bailleur. Il n'y a jamais eu de retour, jamais eu de travaux. Et là, le fait de passer dans le cadre du SLIM, d'envoyer du coup un courrier à l'attention du bailleur avec du coup le document officiel du département, parce que voilà, tous nos courriers du coup sont validés par le service du département, donc on a l'entête département, et là de suite, le bailleur a répondu et a fait les travaux. Donc ça, c'est quand même on voit qu'on a quand même une force de frappe, le fait d'être voilà, d'être soutenu du coup par le département.
Et Sabrina, même question. Donc,
c'est de la triche. Moi, j'ai eu un peu plus de temps. Du coup, je souriais parce qu'effectivement, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais dire? Mais en fait, ouais, ça me saute aux yeux. Donc, déjà, moi, pour la petite histoire, j'avais été bénévole pour les compagnons bâtisseurs avant d'être engagée aux compagnons bâtisseurs depuis 2018. Et j'ai pu voir en fait le changement, presque, enfin pas, c'est pas presque, c'est le changement physique chez les personnes avant l'intervention et après le chantier d'autoréhabilitation accompagné. Et là, pour le coup, la réhabilitation, c'était énorme l'impact en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de distance parce que je coordonne le projet, mais à travers Nikita et les autres collègues qui me remontent les interventions sur le terrain, je retrouve un peu ce sourire parce que je me dis, chouette, on les a des fois au téléphone juste avant, on les a juste après, on se dit, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'enlève, clairement, il y a un poids qui s'enlève. Et puis pour la petite histoire et l'anecdote sympa, parce que j'ai aussi la casquette de référente volontariat dans ma structure, il y a un an et demi, je crois, on a accueilli un volontaire allemand qui avait des origines hollandaises. Et là, je crois, et peut-être que je me trompe sur le secteur, il me semble au fin fond du Médoc, on intervient chez une dame un peu isolée, assez âgée, qui effectivement avait des origines hollandaises, et ça faisait des années qu'elle n'avait pas parlé hollandais. Et là, la rencontre miraculeuse entre nos volontaires Ruben et Madame, extraordinaire, elle pleure de joie parce qu'elle parle hollandais avec le jeune homme, et ils expliquent la précarité énergétique dans leur langue, et là, ça, franchement, c'était magique.
Alors, ben, ça va nous faire une transition pour passer à notre autre question, puisque autour du SLIM, il y a tout un système, les fournisseurs d'énergie, le pays dans lequel nous vivons, la législation que nous connaissons, etc. Et c'est un petit peu aussi tout ce système qu'il faut arriver peut-être à bouger. La Fondation pour le logement sort chaque année un rapport annuel, et en général pour analyser les causes et puis les actions autour du mal-logement. Alors, dans le cas du SLIM, quand vous rencontrez une situation de mal-logement, de toute façon, vous avez toute une procédure d'alerte. Et si le logement est indécent, insalubre, vous allez réussir à sortir la personne de cette situation. Mais la question du mal-logement est aussi une question de mal-être. On vient de le voir à travers les histoires très humaines que vous venez de raconter. La précarité énergétique, elle a plusieurs facteurs. Donc, c'est souvent aussi de la précarité tout court. Et c'est vrai qu'à travers les visites du SLIM ou les personnes qui ont pu témoigner, on voit que c'est aussi une façon de retrouver du plaisir à habiter chez soi, à redécorer son logement, à pouvoir accueillir de nouveau des amis, parce qu'on n'a plus honte de son logement et qu'on y est bien. Donc, la question qui est compliquée et qui est reposée à chaque fois quand on parle de précarité énergétique, c'est comment on peut faire pour endiguer à la fois le mal-logement et le mal-être de la personne qui est dans la précarité énergétique. Alors, on dit en général qu'en France, c'est 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, et c'est très approximatif, puisque évidemment, on ne sait pas compter les personnes qui se privent de chauffage, de lumière, etc., et de confort pour arriver à payer leurs factures. Mais voilà à peu près la situation. Et ce ne sont pas les évolutions tarifaires des prix de l'énergie qui vont aider évidemment à résorber cette situation. Que diriez-vous de cette question ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus pour endiguer ce mal-logement et ce mal-être ?
Alors moi, ce que je vois du coup à mon échelle, c'est que les ressources stagnent, tandis que les dépenses augmentent. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, dans le cadre du SLIM, c'est de vraiment éplucher du coup les dépenses, principalement du coup énergétiques, et d'essayer du coup de les limiter. De par du coup, tout ce qui va être gestion de chauffage, choix du tarif, des énergies, parce que il y a une multitude du coup, de fournisseurs qui existent, avec du coup différentes options qui peuvent exister. Rappeler un peu aux personnes le principe de la mensualisation aussi, par rapport au réel, parce que ce n'est pas parce que vous payez moins cher de mensualité que forcément le contrat va être mieux. Il y a une vigilance à avoir sur la facture de régule. Donc on essaie de regarder ces éléments-là. Et après, je voulais juste rappeler aux gens le DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc c'est un document qui est obligatoire depuis 2006, qui doit être fourni du coup en amont lorsque vous cherchez un logement. Et ça, on retrouve du coup beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne savent pas le lire. Et en fait, il permet vraiment de savoir, avant de louer, combien on est censé du coup payer en termes d'énergie à l'année. Donc, ce qui est une vraie valeur importante à savoir. Et beaucoup de personnes du coup ne l'ont pas, soit parce que voilà, le bailleur ne l'a pas fait, ou ne souhaite pas du coup le divulguer. Et voilà, c'est un point que je souhaite du coup faire attention. Ouais.
Question assez dense finalement. Hein. Elle fait presque un peu peur. C'est vrai qu'avant tout, je pense que ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a un vrai enjeu fondamental et assez initial dans le problème, c'est l'enjeu de repérage. On se dit souvent que dans les problématiques de précarité énergétique, il y a un vrai enjeu. Et puis dans d'autres enjeux, dans d'autres situations où on a des situations de précarité de façon générale, de toute façon. Il y a cet enjeu de se dire comment est-ce qu'on va aller repérer ces personnes dont on sait qu'elles sont en souffrance chez elles, mais pour lesquelles il est devenu compliqué de créer des passerelles, de créer des ponts, du lien. Et encore une fois, je reviens sur cette politique d'aller vers. Alors, moi, ça me fait un petit peu sourire de dire politique d'aller vers. En fait, c'est tout simplement comment est-ce qu'on retrouve la spontanéité et dans les dispositifs qui existent ou pas, hein, comment est-ce qu'on fait que nous, entre êtres humains, à un moment donné, on oublie que nos aînés, souvent, ou des personnes, sont toutes seules chez elles et qu'elles, petit à petit, elles sombrent dans quelque chose qu'on appelle aujourd'hui soit précarité énergétique, précarité sociale, etc. Donc, un, c'était souligner cet enjeu de repérage. Et donc là, bah, une des solutions, on a envie de crier, bah, effectivement, si on avait plus de moyens, des structures, et pas que la nôtre, mais pourrait justement se mobiliser pour aller faire du repérage, créer justement des prétextes à intervention, des prétextes à aller chercher les personnes, à les remobiliser, à les ramener vers la vie collective, en fait. C'est à travers ces temps-là, un collègue au Compagnon Bâtisseur avait parlé d'absence de place du village. Mais c'est hyper symbolique, c'est cette idée qu'il ne se passe plus rien, en fait, dans le centre du village pour que, justement, on aille repérer et se soucier de l'autre. Donc déjà, pour nous, il y a ce premier enjeu au Compagnon Bâtisseur et c'est ce qu'on fait au quotidien, nous, à travers les ateliers bricolage, etc., par exemple. Et par ailleurs, il y a vraiment un principe de responsabilité qu'on doit tous s'appliquer et qu'on s'applique au Compagnon Bâtisseur, c'est faire au plus juste, au mieux, en fonction des enjeux économiques et environnementaux. La traduction au Compagnon Bâtisseur, c'est que dans le cadre du SLIM, on va être très vigilant avec le département à bien utiliser le budget. Quand je dis ça, bah, ce ne sont pas juste des paroles, c'est un budget quand même qui est fait au cordeau, où on se dit, voilà, on a vraiment une enveloppe par dépannage pédagogique, par chantier pédagogique, on y est très vigilant et on la suit. On fait appel à des dons à travers notre plateforme Solibat et on est en lien encore avec le département pour travailler ensemble, pour... Bah, essayer de prospecter, voir si des dons peuvent être faits de différentes entreprises qui s'engagent déjà à nos côtés pour pouvoir mettre à disposition des matériels et matériaux qui bénéficient directement aux familles. Et in fine, il y a aussi ce lien que soulignait Aurélien avec les propriétaires pour essayer justement d'assurer un échange, de faire le lien en se disant « Tiens, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour rappeler chacun à ses responsabilités ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ce bénéficiaire, in fine, votre locataire, il puisse se sentir mieux dans votre logement ?» Parce que c'est aussi sa responsabilité. Et c'est vraiment en combinant toutes ces actions-là qu'on arrivera peut-être à commencer à empiéter sur la problématique.
Alors du côté du département, c'est pour aborder cette question quand même complexe du mal logement et aussi du mal-être des personnes en situation de précarité énergétique. Donc il y a le SLIM qui va permettre, on l'a compris, de repérer, de diagnostiquer, puis d'accompagner. Et il y a ensuite tout le travail qui est à faire avec le propriétaire, puisqu'on s'adresse en général à des locataires. Donc à ce moment-là, c'est d'autres dispositifs du département, mais d'ailleurs pas que du département, qui peuvent servir de relais, comme des travaux de rénovation, si le propriétaire peut bénéficier des aides de l'ANA, etc. On a également, on s'appuie sur le Fonds Solidarité Logement, le FSL, qui est un partenaire important du département. Et on essaie finalement, à travers ce dispositif, de simplifier un petit peu l'accès. Et je pense aussi que ce qu'on apporte, c'est la garantie que la personne sait qu'elle va être accompagnée par des structures, des associations qui sont à la fois compétentes, mais surtout qui sont neutres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour vendre des appareils, pour vendre de l'énergie, pour vendre des contrats. Et donc, je tiens à rappeler qu'on s'appuie d'abord sur 4 associations. Donc, il y a le CREAC qui est avec nous aujourd'hui, il y a Solia, il y a MPS Léo Lagrange, mais ensuite, on a la Fondation pour le logement. Donc là, on bascule déjà vers les solutions de type petits travaux de sécurité. C'est quand même très important parce que la sécurité électrique, ça peut être dramatique dans un bâtiment, changement du réfrigérateur, etc. La machine à laver aussi. Certaines personnes n'ont pas de machine à laver. Et même quand elles ont beaucoup d'enfants, on a Le Lien, qui est une association sur le Libournais. On a les Compagnons Bâtisseurs. On a la DIL pour la médiation juridique. Et là, je crois que j'ai oublié à peu près personne dans le dispositif. Pour autant, je pense que quand on est aussi bien que soit le locataire ou le propriétaire, c'est vrai quand même qu'on est dans des systèmes complexes pour arriver à faire de la rénovation énergétique de manière simple. Les aides pour accompagner une personne en précarité, ça, c'est souvent aussi un véritable parcours labyrinthique. Il n'y a rien qui est très simple et il n'y a rien qui est très automatisé. Bon, peut-être que au moins la réussite du SLIM, à sa petite échelle, hein, parce que c'est 1 000 ménages accompagnés par an, voilà, mais on va dire c'est déjà ça, c'est au moins de simplifier le parcours et de garantir que c'est un parcours sécurisé, de confiance, où il n'y a pas de jugement, ni sur le locataire, ni sur le propriétaire. On est vraiment là pour aider.
Alors là, on va passer à l'instant des questions des auditeurs. Alors, j'ai reçu trois questions. Donc la première, elle est plutôt orientée vers toi, Laure. Alors la première question, c'est est-ce qu'il y a une prise en compte du dérèglement climatique dans les dispositifs comme le SLIM 33? On sait qu'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques et les catastrophes climatiques touchent beaucoup le bâti. Que ce soit les inondations, même les vagues de chaleur, ça peut être quelque chose qui... Et il y a le retrait aussi, gonflement argile, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans ces dispositifs?
Je dirais que de fait, quand il y a la précarité énergétique, on est forcément sur la question de la transition énergétique et des impacts déjà visibles du dérèglement climatique. Donc, ce qui va être regardé, c'est pas juste ce qui se passe du côté de la ventilation ou des appareils de chauffage. Ça va être aussi regarder la structure du bâti, bien entendu. Donc, on verra à ce moment-là s'il y a des impacts. Et comme on fait intervenir la DIL, eh bien, c'est là, notamment peut-être s'il y a des dégâts qui nécessitent du conseil juridique, qu'on va pouvoir intervenir. Mais ça me paraît une évidence que c'est forcément lié. Après, je ne sais pas si Aurélien et Sabrina, vous voyez autre chose pour compléter.
Déjà, quand on fait les visites, on va demander ce qu'on appelle le DDT, dossier de diagnostic technique, qui comprend du coup tout un tas de documents, comme le DPE, j'en ai parlé tout à l'heure, mais également des éléments du coup sur la présence du coup de termites ou autres, de nuisibles, les risques technologiques. Donc, on a parlé du coup de dégonflement. L'idée juste pour quand on va faire la visite, si on s'aperçoit du coup de la présence de fissures ou de lézardes, on va essayer de comprendre du coup comment c'est venu, si ça a été du coup signalé via la mairie pour ça, faire le lien avec les assurances pour que le ménage du coup puisse le signaler pour une prise en charge. Et ensuite, idéalement, de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise.
Alors, la deuxième question, elle est plutôt orientée vers les structures. C'est comment est-ce que, en tant que citoyenne et citoyen, on peut vous aider au quotidien? Est-ce qu'on peut rejoindre les compagnons bâtisseurs, rejoindre le CREAC, ou comment est-ce qu'on peut concrètement, si on a un peu de temps à donner en tant que bénévole, vous aider?
C'est pas, je sais pas, je me sens d'un coup, je me dis chouette, ça c'est pour moi. Ou en tout cas, c'est pour le mouvement Compagnons Bâtisseurs. Carrément, j'ai envie de dire oui, on peut nous aider parce que mouvement d'éducation populaire, association loi 1901, nous on œuvre depuis quelques années sur la remobilisation de nos forces bénévoles. Donc ça veut dire concrètement qu'on accueille les bénévoles à bras ouverts. Bénévoles qui ont envie effectivement qui ont d'abord conscience de ces problématiques-là et qui ont envie d'agir. Et on a régulièrement des petits mails, des messages qui nous rappellent à quel point nous aussi, salariés, on n'est pas tout seul à œuvrer et qu'on a des personnes qui viennent frapper à notre porte en nous disant, mais dis donc, là, j'ai arrêté de travailler ou je ne travaille pas pendant 2, 3 mois et j'ai tellement pris conscience des problématiques du logement que j'ai envie de pouvoir vous aider ou alors j'ai aussi envie d'apprendre pour pouvoir ensuite transmettre, etc. Et c'est là qu'effectivement, nous, on fait toute la place au bénévolat. Donc oui, tout à fait, on peut rejoindre les compagnons bâtisseurs en tant que bénévole. On pourra communiquer les coordonnées. On propose régulièrement des temps avec notre médiatrice, notamment Maud, qui accueille à cadence régulière, je crois, tous les mois et demi autour d'un café dédié aux bénévoles. On prend le temps d'expliquer ce qu'est l'association, la mission, le projet associatif et comment concrètement on peut s'engager à travers des plannings de chantier, savoir ce qu'on peut faire, comment on va le faire et avec qui.
Et par rapport à nous au CREAC, donc vu que nous sommes une association, vous pouvez très bien adhérer, donc toutes les infos sur notre site, du coup du CREAC.org. Et ensuite, par rapport à la préca, ben, je vous invite juste à tendre l'oreille, on parlait d'isolement tout à l'heure, à vos voisins, à vos voisines, de voir qui, voilà, s'ils ont de quoi chauffer l'hiver, des choses comme ça. Et juste voilà, un petit coup de main, un peu de solidarité, ça peut être pas mal.
Bon, mais là, du coup, je redemande le micro parce que je me dis, non, mais mince, comment j'ai pu oublier ça ? On recrute des volontaires au titre du service civique. Alors, je ne mentionne pas le Corps européen de solidarité, parce que ça se fait sur une plateforme européenne, mais au titre du service civique, on va pouvoir recruter et on propose des missions dédiées à la précarité énergétique, en tout cas à comprendre et à agir concrètement. Et pour cela, il faut se rendre sur le site officiel de l'Agence du service civique, pouvoir retrouver l'annonce dans l'axe solidarité, précarité énergétique et environnementale, les annonces des compagnons bâtisseurs pour les recruter. Et si jamais on peut contacter le siège des compagnons bâtisseurs à Bordeaux et proposer sa candidature pour un service civique qui est proposé entre 17 et 25 ans.
Super. Et bah, la dernière question, elle va rebondir sur ce que tu viens d'aborder, Aurélien. C'est plutôt une mise en situation. Donc la question, c'est une personne qui a une de ses voisines, qui est une personne âgée, qui a du mal à se déplacer et qui vit dans une passoire thermique. Comment elle, est-ce qu'elle peut aider cette personne ? Parce que cette personne, elle n'a pas forcément les moyens d'aller vers la MDS. Comment elle peut aider vraiment concrètement sa voisine ?
Mais là, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut contacter la MDS, du coup, la plus proche de chez elle, ou le CCS, suivant du coup le profil, pour demander du coup une fiche d'alerte SLIM, et avec les éléments du coup de la personne qu'elle va lui donner, donc le nom, le prénom, l'adresse, voilà, quelques éléments simples, la MDS pour nous transmettre du coup cette alerte.
Voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, on va passer à l'instant recommandation. Donc, c'est micro ouvert. Vous avez la possibilité de faire vos recommandations à nos auditeurs.
Bon, du coup, forcément, je vais reprendre le micro en rigolant parce qu'on s'est arrêté sur l'idée de qu'est-ce qu'on recommande, est-ce que c'est une lecture culturelle ou pas ? Et je crois qu'avec Aurélien, on est d'accord sur la même idée. Hein ? Bon, trêve de plaisanterie, on se dit quand même, on prône l'allée vert et on se dit que la recommandation qu'on pourrait faire, c'est d'aller penser à ses voisins et de frapper à la porte d'à côté en se disant « est-ce que tout va bien pour lui ?» Et c'est à partir de là qu'on peut commencer le repérage. Et effectivement, si tout seul, on ne peut pas aller à la MDS, comme tu disais Aurélien, on peut aller pour une personne essayer d'aller repérer la S référente du secteur, j'imagine.
Complètement, d'avoir du soutien, oui.
Et puis lui demander d'aller faire une visite à domicile. Et je pense que c'est comme ça que ça commence, puisque même pour nous, pour les orientations, que ce soit Lara ou un autre dispositif, c'est effectivement toujours sur l'orientation sociale.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre premier numéro, notre premier podcast. J'espère qu'on vous a aussi convaincu que la transition écologique, ça permet de faire plein de choses, que c'est forcément indissociable de cette justice sociale dont on parle. Évidemment, aussi la justice climatique, que vous avez passé un bon moment à nous écouter. A rich man's world. A rich man's world.